Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h sur Campus Grenoble 90.8.
Léa Bouvet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette cinquième émission de Microcité, votre rendez-vous d'actualité du vendredi après-midi. Il est 16h30 et nous sommes ensemble jusqu'à 17h sur Radio Campus Grenoble. Au programme cette semaine, Agathe Legrand et ses invités nous parleront de la COP26 qui se termine aujourd'hui. Que retenir de ce grand rendez-vous international et surtout comment faire face aux enjeux du réchauffement climatique? Nous y reviendrons dans le dossier de cette émission. Vous avez peut-être des noyers au fond de votre jardin et vous ne savez pas quoi faire, des stocks de noix qui s'accumulent. Gwendoline Langlois a enfilé ses plus belles bottes d'automne pour vous faire découvrir comment transformer tout ça en huile de noix et pour un prix imbattable. Installez-vous au chaud, on est ensemble en direct jusqu'à 17h sur Radio Campus Grenoble 90.8. Microcité, c'est parti! Et tout d'abord, on commence avec le journal de Clémentine Proutot. Bonjour Clémentine.
Bonjour Léa, bonjour à tous. La communauté internationale réunie aujourd'hui à Paris. Le président Emmanuel Macron organise cet après-midi une conférence sur la crise politique en Libye. La ville de Grenoble organise la 13e édition du mois de l'accessibilité. Gauthier Asquet reviendra dans ce journal sur les difficultés que rencontrent les personnes en situation de handicap. Lors des derniers confinements, de nombreux Français se sont mis à écrire des livres. Certaines maisons d'édition proposent de les coacher. Gwendoline Langlois nous emmènera à Brandon et compagnie en fin de journal. La situation reste tendue à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Des exercices militaires y sont menés par les armées russes et bélarusses, une action justifiée comme étant une inspection surprise de la préparation des troupes des deux pays, une démonstration de force inquiétante pour l'Union européenne, alors que plus de 2000 migrants restent toujours bloqués à la frontière polonaise. Une trentaine de dirigeants et chefs d'État sont arrivés à Paris en début d'après-midi. Au programme, la gestion de la crise politique en Libye. 10 ans après la chute du dictateur Muammar Kadhafi, des élections présidentielles doivent être organisées le 24 décembre prochain, mais des tensions entre les autorités intérimaires pourraient mettre à mal leur organisation. En Afghanistan, au moins 3 personnes tuées et des dizaines de blessés par une explosion ce matin dans une mosquée. L'est du pays est devenu depuis plusieurs semaines l'épicentre d'une vague de violence entre talibans et djihadistes de l'État islamique. Plus de coupure d'électricité en cas d'impayé, c'est ce qu'a annoncé EDF ce matin. Le groupe appliquait cette règle lors des trêves hivernales, c'est désormais le cas toute l'année. L'entreprise limitera tout de même la puissance d'énergie disponible à ses clients. Il sera donc possible d'allumer la lumière, charger son téléphone, mais pas de chauffer son logement. La municipalité de Grenoble l'a voté en début de semaine. Se garer dans les rues du centre-ville coûtera bientôt plus cher. Son objectif, dépolluer le centre-ville, le rendre plus agréable à vivre. Une décision qui n'est pas du goût de plusieurs commerçants du centre. Anouk Caron les a rencontrés.
Une fois garé dans le centre-ville, ce petit geste au parc-mètre coûtera l'année prochaine environ 50 centimes de plus que les prix actuels. Cette augmentation ne concerne pas les tarifs résidents et professionnels, mais elle n'est pas vue d'un très bon œil par Dominique Barbera, gérant d'Atoll, mon opticien rue Thiers.
Déjà que le pouvoir d'achat est difficile pour certains, que le centre-ville a été bien abîmé pendant des années avec les travaux, qu'on a subi une désertification massive du centre-ville, les périodes de Covid, je pense que c'est pas bien le moment d'augmenter encore les tarifs de stationnement.
Plusieurs commerces craignent que les clients désertent le centre-ville malgré la possibilité de prendre les transports en commun. Une peur entendue par Gilles Namur, adjoint aux mobilités de la ville.
La métropole est grande, avec aussi des villages en montagne qui ne sont pas forcément tous très bien desservis. C'est pour cela qu'on a mis en place, lors du mandat précédent, un plan de déplacement urbain pour 2030 qui est très volontariste pour continuer à développer encore plus les transports en commun.
Les nouveaux prix du stationnement seront appliqués en mars prochain. D'après une enquête de l'entreprise Zen Park, Grenoble est la 3e ville de France où le stationnement en voirie est le plus cher.
T'entends un casque ?
Pour la première fois, l'Agence européenne des médicaments a autorisé hier la mise sur le marché de 2 médicaments contre le Covid-19. Ces traitements antiviraux pourront être utilisés sur des patients immunodéprimés qui répondent mal à la vaccination. Ces traitements leur éviteront de développer des formes graves de la maladie. Comment rendre nos villes plus accessibles? La ville de Grenoble organise pendant le mois de novembre des activités autour de la thématique du handicap. Classée deuxième ville la plus accessible d'Europe, la mairie affirme que les deux tiers de la ville sont accessibles à tous. Gauthier Asquette est allé demander l'avis de l'Association des paralysés de France.
Accéder au commerce, aux bâtiments publics ou prendre les transports, on ne se rend pas toujours compte des nombreux obstacles qui limitent l'accessibilité de nos villes. Victor Meneghel, élu APF à Grenoble, est lui-même en situation de handicap.
On a beau être la ville d'Europe la plus accessible, maintenant qu'on a eu ces titres-là, on laisse aller, quoi. Je pense que si vous passez dans certains quartiers de Grenoble, en fauteuil, c'est pas si facile que ça. Je veux pas dire on est numéro un accessible et tout, on est accessible de partout et tout. C'est la moins pire pour l'accessibilité, quoi, disons.
Pour Christelle Dirago, assistante territoriale au sein de l'APF France Handicap et référente droit des personnes, le problème vient aussi d'un manque de consultation.
Plutôt que de se dire après coup, ah ben ce serait sympa de venir voir si on a bien fait. Non, il faut faire les choses dans le sens inverse. Il faut que tout le monde travaille ensemble. Avant de faire les choses, il faut que tout le monde se mette autour de la table, discute du projet, pour que effectivement chacun puisse apporter sa petite pierre pour que l'édifice soit construit dans le bon sens et une bonne fois pour toutes.
Pour elle, l'enjeu de l'accessibilité dépasse largement la question du handicap.
C'est vraiment l'accessibilité universelle. Quand une personne en fauteuil peut aller d'un point A à un point B sans encombre, ça profite à tout le monde. Que ce soit la maman avec sa poussette triple ou le papa, hein, ou la grand-mère, ou enfin voilà. Faut arrêter de se dire c'est pour les personnes à mobilité réduite. Non, c'est pour le bien-être de tout le monde. Aller et venir à sa guise sans difficulté et en autonomie.
Au-delà de la sensibilisation, l'objectif est donc de rendre nos lieux de vie de plus en plus inclusifs. Multiplier les rampes d'accès, développer les pictogrammes, les signaux sonores ou encore élargir les trottoirs. Autant d'aménagements qui, même dans une ville classée comme « bon élève », restent insuffisants pour permettre à chacun de se déplacer librement.
Les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes recevront 1,6 milliard d'euros de la part de l'État. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran. Il était en déplacement ce matin au CHU de Grenoble. Ce financement fait partie du plan d'investissement du Ségur de la Santé. L'État va également reprendre des dizaines de millions d'euros de dettes des différents établissements de la région. Vous rêvez de publier un roman? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Avec le confinement, les maisons d'édition ont reçu deux fois plus de manuscrits qu'avant. Alors, pour aider les écrivains en herbe à faire face à cette concurrence, la maison d'édition Brandon et compagnie propose des coachings d'écriture, publication à la clé. Gwendoline Langlois a assisté à l'un de ses ateliers à Grenoble.
Trouvez-moi une image.
Quelque chose de plus évocateur.
Oui. Assis devant son ordinateur, Laurent cherche le mot juste. Cela fait 2 ans qu'il suit les ateliers d'écriture de Brandon et compagnie.
J'ai décidé d'écrire un roman qui soit publié. J'ai rencontré Caroline et puis on a commencé les ateliers.
Et voilà, on a réduit la phrase de moitié, elle n'en a que plus de sens.
Ouais, Caroline, c'est la créatrice de la maison d'édition, forme de nouveaux auteurs depuis 2016.
Quand je sélectionne quelqu'un, c'est vraiment pour le voir arriver jusqu'au bout et pouvoir publier son roman, sa pièce de théâtre, son scénario, sa traduction littéraire.
Et ça marche. Une dizaine d'ouvrages sont nés de ces ateliers d'écriture. Les profils sont variés. Pierre, retraité, a poussé les portes de Brandon et compagnie pour écrire son 4e roman, une autobiographie.
Je suis arrivé avec une brouette pleine de briques. Je ne savais pas quoi en faire, mais grâce à Caroline, on a trouvé le mortier, le ciment qu'il fallait, et puis le mur a tenu.
À la fin du cycle, la fierté d'être arrivé au bout du projet et son nom sur la couverture, même s'il a fallu faire quelques concessions et compromis.
C'est différent de ce que j'avais au départ. C'était plus ma seule patte.
Le cycle d'atelier dure 3 ans. 28 séances d'environ 4 heures et des entretiens personnalisés permettent aux élèves d'écrire leur roman.
C'est à la fois challenging et à la fois c'est rassurant parce qu'on n'avance pas tout seul. Et là, c'est vraiment une professionnelle qui nous guide et là où j'en suis, j'aurais pas pu y être sans Caroline. Quoi.
À 28 ans, Laurent s'apprête à terminer son premier roman, l'histoire d'un jeune prince qui quitte son royaume pour partir à l'aventure.
Pour les personnes intéressées, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à dimanche. Une vie d'artiste qui a un coût, comptez un peu moins de 1000 euros l'année de formation.
Clémentine Proutou, on vous retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres. Microcité, ça continue, toujours sur Radio Campus Grenoble. Il est 16h39. Dans quelques instants, on parlera écologie, action sociale, citoyenne, avenir climatique. Mais tout d'abord, petite pause musicale. Restez avec nous, à tout de suite.
Un
jour viendra le corps tassé, les parchemins sur nos visages, ceux qui racontent la vie passée, tous les succès et les naufrages, et nos mains qui tremblent au vent, comme des biggins au pas léger, continueront de battre le temps sous des soleils endimanchés. Un jour viendra, on fera vieux os, des bégonias sur le balcon, un petit air de calypso, photo sépia dans le salon. Malgré la vie, le temps passé, malgré la jeunesse fatiguée, personne ne pourra empêcher nos corps usés de chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Avant que le printemps se fasse automne, que l'on s'éloigne de la rive, on scratchera du gramophone quelques ritournelles caraïbes. On s'épuisera sur le dance floor en de petits pas économes, tant que sera levé le store, nos palpitants seront métronomes. Elles me reviennent les années folles, quand on mourait seulement de rire. Oh, rappelle-toi du Malecon, le clapotis de nos souvenirs. Un jour viendra cette ritournelle, quand ma voix se sera envolée. Je te supplie en souvenir d'elle, de continuer à chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper.
C'était Chaloupé de Gaël Faye. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble. Il est 16h43.
Le dossier de la semaine.
Vous avez sans doute entendu parler du dernier rapport du GIEC paru cet été, de ses conclusions alarmantes sur l'accélération du dérèglement climatique. Alors, que faire? C'est la question que se sont posées les dirigeants réunis à Glasgow depuis deux semaines pour la COP26. On en parle tout de suite dans ce dossier avec Agathe Legrand et ses invités. Bonjour Agathe.
Bonjour. Alors, elle a débuté le 31 octobre et se termine aujourd'hui. La COP26 était très attendue. 5 ans après les accords de Paris, l'heure était au bilan. Nous discuterons des enjeux de cet événement avec nos invités, donc Jérémy Cicéron, membre d'Alternativa Grenoble, et Emmanuel Collin de Verdière, de ADTC Se Déplacer Autrement. Mais avant ça, Anouk Caron, c'est quoi exactement la COP26?
On va commencer par le béaba. COP26, ça veut tout simplement dire 26e conférence des parties. La COP26, c'est un peu comme Noël ou une fête de famille obligatoire à laquelle sont conviés tous vos oncles et tantes. Sauf que là, les tontons et les tatas sont remplacés par 196 parties, 195 pays et l'Union européenne, qui viennent discuter du changement climatique. Ces pays sont tous signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Bon, en gros, c'est un texte international qui vise à lutter contre le réchauffement climatique. Depuis 1995, un rassemblement de deux semaines est organisé successivement sur chaque continent. Alors, il y a des représentants politiques, mais aussi des collectivités territoriales, des acteurs civils ou encore des scientifiques. Tout ce beau monde doit se mettre d'accord pour ralentir le plus possible le réchauffement climatique. Mais comment faire ? Et c'est ce qui fait débat chaque année. En 2015, après la COP21, les États avaient tous signé les accords de Paris qui devaient permettre de contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés d'ici 2100. Mais bon, selon les estimations actuelles du GIEC, la tendance actuelle est plutôt d'un réchauffement de 4 ou 5 degrés.
Alors excusez-moi, c'était pas Anouk Caron, c'était Gwendoline Langlois. Donc merci Gwendoline Langlois pour cet éclairage. Alors cette COP26, bientôt terminée, est-ce qu'elle est allée dans la bonne direction, Jérémy Cicéron ? Je vous rappelle que vous êtes donc membre d'Alternatiba.
Bonjour, oui, merci. Alors bon, déjà on n'a pas le bilan total, mais enfin je pense qu'il faut pas trop se faire d'illusions, il faut vraiment se méfier de ce qui est annoncé, parce que dès qu'on creuse les sujets, il y a eu différentes annonces, mais dès qu'on creuse un petit peu les sujets, on voit que c'est très problématique ce qui est annoncé à chaque fois. Donc on a un des objectifs de cette COP spécifiquement, c'était que différents pays annoncent leur plan pour respecter les accords de Paris qui a été annoncé à la COP21, donc en 2015. Et a priori, pour l'instant, l'ensemble de ces accords nous mettent sur une, de ces engagements des États nous mettent sur une trajectoire à 2,7 degrés de réchauffement climatique à la fin du siècle, ce qui est déjà considérable. C'est extrêmement dur comme changement, presque 3 degrés de réchauffement global. Et ce ne sont que des engagements. Et malheureusement, les politiques concrètes des pays qui prennent ces engagements ne sont pas du tout alignées sur ces mesures. Donc ça a été dit dans le précédemment. Là. A priori, pour l'instant, on s'oriente plutôt vers un réchauffement de plus 4 ou plus 5 degrés à la fin du siècle, ce qui est là totalement apocalyptique, on peut le dire. Donc... Oui, les COP, il ne faut pas se faire trop d'illusions non plus sur sur le fait que ce soit les COP qui vont être moteurs pour changer les choses. Hein, il ne faut pas inverser les choses. Déjà, la COP, c'est un processus de l'ONU, donc qui n'est pas du tout contraignant pour les États. Donc les États qui sont à la COP n'accepteront de s'engager à faire que ce qu'ils sont prêts à faire déjà eux-mêmes. Et en fait, ils ne s'engageront à faire que ce que leur population, leurs citoyens, les pousseront à accepter et la manière dont on acceptera de se réorganiser.
C'est un avis que vous partagez, Emmanuel Collin de Verdière ?
Oui, bonsoir, merci de votre invitation. Ça peut passer que par derrière la mobilisation au sein de chaque pays des habitants. Hein. Nous, notre association travaille surtout sur les mobilités alternatives à la voiture individuelle. Et du coup, on a besoin à la fois de se mobiliser pour auprès des élus qu'ils développent plus les modes alternatifs à la voiture individuelle. Marche à pied, vélo, transport en commun. Et on le voit d'ailleurs, il y avait des stands un peu à la COP26. Et sur la mobilité, il mettait surtout en valeur la voiture électrique. Quoi. Donc la voiture électrique, c'est parfait parce que ça permet de faire croire qu'on change alors qu'on ne change rien en fait. Voilà. Donc c'est typique un peu des choses qu'on peut voir quoi. Et aujourd'hui pourtant les émissions liées à la mobilité, celles qui augmentent encore aujourd'hui en France hein, parce qu'elles sont passées par exemple de 23 à 31% des émissions en 30 ans en France métropolitaine, les émissions internes de gaz à effet de serre, et pourtant on continue à construire beaucoup de routes. On le voit dans la région grenobloise, hein, on a l'élargissement de la 480, 400 millions d'euros avec le rondeau, plus gros investissement sur la mobilité pour les 10 années qui sont en train de s'écouler. On a aussi un gros investissement routier qui va bientôt sans doute arriver, enfin l'enquête publique en tout cas va arriver sur ce qu'ils appellent la sécurisation de la RD 1075 au sud de l'Isère. Enfin, on s'aperçoit, c'est surtout pour créer des voies de dépassement, donc on ne voit pas trop ce que se fait l'élargissement. Et pendant ce temps-là, on manque d'argent pour développer les autres modes, hein, à titre indicatif. Quand on regarde les investissements dans le ferroviaire, en France, en 2018, c'était 40 euros par an et par habitant, à comparer par exemple à la Suisse, 365 euros. Hein. Du coup, on voit bien le hiatus dans les investissements.
Oui, donc un hiatus et beaucoup de promesses, si je résume ce que vous me dites. Justement, la Chine et les États-Unis viennent d'annoncer un accord surprise, même si donc, pour l'instant, on ignore encore quelles mesures se cachent derrière cet accord. Le fait que des grandes puissances quand même s'emparent de la question climatique, c'est pas quand même quelque chose d'important.
Ben, je pense que ça démontre qu'ils sont obligés de répondre, que c'est un sujet qui monte quand même dans l'ensemble de la population mondiale. Il n'y a pas qu'en France qu'on s'en préoccupe. Aujourd'hui, je crois que y a des sondages qui disent qu'il y a à peu près 70% des jeunes dans le monde qui se préoccupent de ces questions-là. Et donc, ils sont obligés de donner des réponses. Et c'est en soi une très bonne chose. Après, je sais pas. Je pense que j'ai l'impression que personne ne sait ce qu'il y a dans cet accord. Donc, c'est difficile de le commenter. Moi, de ce que je vois des différents accords qui ont été annoncés pour l'instant, c'est qu'en fait, les différents pays ne remettent pas vraiment en cause leurs intérêts propres. Par exemple, la France a accepté de signer un engagement pour ne pas autoriser de nouvelles extractions pétrolières sur son sol, mais nous, on n'a pas vraiment de pétrole, donc en fait, ça nous... Et puis on a déjà une loi qui est censée faire ça, enfin avec des dérogations. Hein. Donc ça, on a accepté de le signer. Par contre, les accords qui poussaient les pays à arrêter d'investir à l'étranger... Ça, la France a refusé de le signer, alors qu'il y a vraiment des pays qui ont des gros intérêts là-dedans, qui l'ont fait. Donc en fait, voilà, quand on regarde en détail, en fait, on voit que les pays signent des accords qui ne sont pas vraiment des problèmes pour eux, quoi, qu'on continue à se reposer sur nos acquis et sur nos investissements tels qu'ils existent aujourd'hui. Non, moi, je suis assez critique du résultat qui est obtenu avec cette COP. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas encore tous les résultats, mais pour l'instant, de tout ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui midi, et après, je n'ai pas eu le temps de regarder, je n'ai rien vu d'exceptionnellement satisfaisant.
Bah, justement, donc, parmi les mesures qui sont sorties pour l'instant, on peut citer par exemple donc justement la coalition pour sortir du pétrole ou encore le reboisement des forêts pour empêcher donc la déforestation. Il y a aussi la réduction de 30% des émissions de méthane. Alors toutes ces mesures que je viens d'énoncer ont un objectif d'ici 2030, alors qu'auparavant on fixait plutôt des objectifs sur 2050. Donc on voit quand même qu'il y a un changement de temporalité. C'est une bonne nouvelle selon vous, ce changement de temporalité ? Je donne la parole à Emmanuel Collin de Verdier.
Oui, parce qu'on sait que, ce que dit le GIEC, c'est que dès 2030, il faut avoir beaucoup diminué les émissions de gaz à effet de serre. Hein. Il ne faut pas attendre 2049 pour arriver à la neutralité carbone en 2050, comme on nous en parle beaucoup, quoi. Et pour cela, il faut, moi, je connais un peu ce qui se passe sur la mobilité, réorienter les investissements, quoi. Aujourd'hui, plus qu'un manque d'argent, c'est plus où c'est qu'on met l'argent qui est important. On investit encore beaucoup sur la route et il manque beaucoup d'investissements sur des transports en commun, sur le vélo. Hein. Le vélo, on entend beaucoup parler en France aujourd'hui dans les métropoles, mais c'est pas un outil qui est... C'est un outil qui pourrait être encore plus efficace dans les villes moyennes et les petites villes de France, où les distances parcourues chaque jour sont encore plus faibles, et même aussi à la campagne, mais à condition d'avoir des pistes cyclables sécurisées pour se déplacer entre plusieurs villages. Ensuite, sur le vélo, j'avais vu un article qui avait calculé que si on se déplaçait tous à vélo autant qu'aux Pays-Bas ou au Danemark, dans toute l'Europe, on pourrait diminuer notre consommation de pétrole de 18%. Aux Pays-Bas et au Danemark, ils ne vivent pas comme des Amish, quoi. C'est l'occasion pour moi de parler du baromètre Parlons Vélo de la FUB. Si vous voulez avoir des meilleurs aménagements, n'hésitez pas à aller répondre à ce baromètre sur internet parlons-vélo.fr pour donner votre avis sur les aménagements vélo dans votre ville.
D'accord, bah c'est noté. Bah justement, le vélo peut être un moyen, en tant que citoyen, d'avoir un impact positif contre le réchauffement climatique. Parce que donc, si les grands groupes et les dirigeants politiques sont parfois frileux en matière d'actes écologiques, les citoyens, eux, n'attendent pas pour agir à leur échelle. Et c'est le cas, par exemple, d'Aurore, que nous sommes allés rencontrer. Cette grenobloise organise son quotidien différemment pour agir concrètement. Donc, c'est Anouk Caron qui allait la rencontrer.
Trier ses déchets ou surveiller sa consommation d'eau, ce sont des gestes simples que l'on peut faire pour l'écologie. Aurore, elle, a décidé d'aller un cran plus loin.
Du coup, ça, c'est mon lombricomposteur. Donc, ce qu'on voit là, c'est des morceaux de carton pour être sûr que les vers mangent bien tout ce qu'ils ont besoin. Et le reste qui est noir, c'est des déchets qui ont déjà été mangés, en fait. À l'intérêt d'avoir un lombricomposteur, c'est de pas acheter ses déchets organiques à la poubelle. Parce que, en fait, les déchets organiques, c'est globalement de l'eau. Et du coup, ça fait transporter de l'eau pour après, potentiellement, en France, brûler ses déchets ménagers. Ce qui n'est pas fou de faire brûler de l'eau, quand même.
Des vers qui digèrent les déchets. Plus d'avion pour elle et son compagnon, et bientôt plus de voiture.
On essaye de s'en séparer. Enfin, moi, j'essaye qu'on s'en sépare parce que, avec la manière dont on l'utilise actuellement, en fait, on n'en a pas besoin.
À côté, Aurore est aussi bénévole à Artisans du Monde, un art de vivre qu'elle applique au quotidien.
Ce sur quoi on fait vraiment attention, c'est comment est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on se fournit de ce dont on a besoin. J'ai essayé de rentrer ça dans la tête de mon compagnon, c'est quand on achète quelque chose, à quoi ça sert.
Alors concernant la COP26, Aurore est un peu blasée et n'en attend pas grand-chose.
COP26, c'est la numéro 26. Pas sûr que celle-ci change plus quelque chose que les autres précédentes.
Pourtant, selon un sondage Odoxa paru en septembre, 76% des Français sont motivés pour accentuer leurs pratiques éco-responsables.
Alors on vient d'entendre Aurore, justement qu'est-ce que les citoyens, qu'est-ce que nos auditeurs peuvent mettre en place dès aujourd'hui pour la planète, très rapidement, Jérémy Cicéron.
Ben, moi je pense que c'est très important que les gens se mobilisent aujourd'hui. Là, il faut vraiment pas croire qu'il y a des choses qui vont changer vraiment dans les engagements qui sont pris. Là, il y a beaucoup d'annonces, mais cette COP, elle a surtout été un festival de greenwashing, il faut le dire. Et c'est vraiment grave en fait. Là, on prétend résoudre les problèmes, on ne le fait pas du tout. Et donc, il faut vraiment que le maximum de gens se renseignent, se forment correctement sur ces questions et qu'on arrête de croire ce qui nous fait plaisir. Parce que la situation, elle est grave, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, on en a, mais on est quand même en train de la perdre petit à petit. Donc, il faut beaucoup de gens qui s'engagent. Et après, les choses à faire, il y en a vraiment beaucoup. Donc, bon, chez Alternatiba, voilà, on fait du plaidoyer, on fait de la sensibilisation. On fait des actions directes aussi, quand c'est nécessaire. Oui. Et après, vous avez plein d'assos aussi sur le campus qui font des trucs très bien. Par exemple, avec Together for Earth et Avenir Climatique qui fait des conférences demain.
D'accord, bah merci beaucoup pour cette réponse. Donc, merci aussi d'avoir été avec nous, donc, Jérémy Cicéron, membre d'Alternatiba, et Emmanuel Collin de Verdière, président de DTC, Se Déplacer Autrement.
Merci à tous. L'émission Microcité continue, il est 16h57.
Microcité sur Campus Grenoble 90.8.
Vous connaissez forcément la noix de Grenoble, une véritable institution dans notre région. Si on la consomme la plupart du temps nature, on peut aussi la déguster sous forme d'huile. Reportage de Gwendoline Langlois.
Dans la famille Bell, on cultive les noix de génération en génération. Tandis que d'un côté de l'entrepôt, situé en périphérie de Grenoble, son frère et sa belle-sœur s'occupent de la récolte, Sandrine, elle, garde un œil attentif sur ses machines qui transforment les noix en huile.
Alors sur la méthode traditionnelle du Dauphiné, en fait, c'est trois étapes. On va d'abord écraser les cerneaux avec la meule. Ensuite, on va les chauffer pour les torréfier, ce qui va donner le goût. Et ensuite, on va les presser avec la presse hydraulique. Et c'est là que l'huile sort, uniquement à cette dernière étape.
Sandrine propose du pressage à façon. Le principe est simple, un amateur ou un professionnel lui amène des cerneaux, au moins 10 kg qu'elle s'occupe de presser et donc de transformer en huile de noix.
Entre 10 et 20 kg, je fais payer un forfait, c'est-à-dire que c'est 30 € TTC la pressée. Au-delà de 20 kg, on est à 1,50 TTC au kilo de cerneaux. Voilà. Et après, je peux faire aussi également... des pressés moins de 10 kg, mais là je suis obligée de mélanger avec les cerneaux de quelqu'un d'autre, et auquel cas on paye là du coup, puisque je vais faire une pressée complète en mélangeant avec ceux de quelqu'un d'autre, on va quand même être à 1,50 TTC au kilo de cerneaux.
Pour les clients de Sandrine, le calcul est vite fait.
Dans le commerce, le litre d'huile de noix avoisine les 20 euros, alors qu'ici, il varie entre 1,60 et 2,70. Bon, à condition, bien sûr, d'avoir déjà dénoyé ou alors de s'armer de patience.
Bah, vous allez attendre plus de 10 ans avant de pouvoir récolter votre première récolte et de pouvoir faire de l'huile.
D'ailleurs, si vous voulez vous lancer, toutes les variétés de noyer se valent. Après, la température permet d'ajuster le goût pour que chacun trouve son bonheur. Dernier petit conseil ?
Il faut la garder déjà au frais. Après, l'huile de noix, c'est une huile qui ne se fait pas cuire. Donc, c'est uniquement une huile d'assaisonnement. Donc, moi, j'adore dans les ravioles, voilà, qui est un plat de chez nous. Hein. Vous en mettez à la fin de la cuisson pour éviter que les ravioles elles collent. Ça va parfumer vos ravioles et c'est excellent, quoi. Après, vous pouvez aussi, ce que j'adore, c'est dans la purée. Voilà, des plats comme ça, à la place du beurre, on met un peu d'huile de noix et voilà, on a une purée dauphinoise.
Et pour ceux qui se sentiraient l'âme d'un cultivateur, sachez que vous avez jusqu'à fin décembre pour planter vos premiers noyers. Il est déjà 17h, mais avant de se quitter, Clémentine Proutot vous a concocté un petit récap de l'actualité.
Lisa, la joggeuse de 17 ans disparue en Mayenne, a avoué avoir menti. Le parquet de Laval l'a annoncé il y a une vingtaine de minutes. La jeune fille, retrouvée mardi à Sablé-sur-Sarthe, a reconnu ne pas avoir été enlevée. Elle s'est excusée pour avoir causé une mobilisation aussi importante. Une procédure pour dénonciation imaginaire va être lancée par le parquet. L'ONU demande aujourd'hui la libération immédiate des journalistes détenus en Birmanie. L'organisation s'exprime après la condamnation d'un reporter américain à 11 ans de prison par la junte militaire birmane. La communauté internationale s'organise pour soutenir la transition politique en Libye. Une trentaine de dirigeants sont réunis à Paris depuis cet après-midi. Leur priorité, maintenir les élections présidentielles prévues dans 6 semaines. Une conférence de presse avec les chefs d'État français, allemand et italien aura lieu à 18h.
Et l'émission de Microcité touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à Louis Oscovin et Sarah Paulet à la technique. Un bon anniversaire à notre camarade Anouk Caron. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, sur Radio Campus. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur l'Instagram de Microcité ou réécouter nos émissions en podcast sur le site Radio Campus Grenoble. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.